Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour. Dans la lignée du roman de Léon Tolstoï, Guerre et paix, Vassili Grossman écrit Vie et destin. Un tel titre résonne avec force s'il s'applique aussi au poète hongrois Miklós Radnóti. Et quelques désirs que l'on ait de s'écarter de la méthode de Sainte-Beuve, tant la vie que le destin de Miklós Radnóti impriment tragiquement son œuvre poétique. À l'image de la phrase des Confessions de Jean-Jacques Rousseau, « Je coûtais la vie à ma mère et ma naissance fut le premier de mes malheurs », celle de Radnóti, le 5 mai 1909 à Budapest, coûte la vie non seulement à sa mère, mais à celle de son frère jumeau. Il dira « C'est moi qui les ai tués ». Dans l'anthologie proposée par la collection Point Poésie, son traducteur Jean-Luc Moreau livre une éclairante introduction. Il y affirme, je le cite, « Je parlerai aussi peu que possible des chefs-d'œuvre de Radnóti, et pour les mêmes raisons, je raconterai moins sa vie que sa mort, ce qu'il fut, ce qu'il sentit, ce qu'il aima, ce qu'il redouta, ce qu'il espéra. Il l'a dit dans des vers que tous nos commentaires ne pourraient jamais qu'affadir. » Par ailleurs, les origines juives de Radnóti lui seront, en son temps comme au nôtre, un puissant fardeau et un puissant motif de persécution. Au point que le tragique de sa naissance rencontrera en écho le tragique de sa mort. En effet, à l'automne de l'année 1944, les hommes réquisitionnés pour le STO, c'est-à-dire le service du travail obligatoire, que la France aussi a connu. Les STO hongrois, donc, mais particulièrement ceux d'origine juive, sont regroupés au camp central de Zagubica, dans la région de Bor, en Serbie. Face à l'avancée des partisans serbes, face aussi à la progression de l'armée rouge en Bulgarie, 6000 prisonniers sont évacués du camp et contraints de se déplacer à marche forcée. C'est aussi le titre de l'anthologie et le titre d'un des poèmes qui la compose. Une marche forcée, donc, à travers la Serbie, puis la Hongrie, où, je cite encore le traducteur, ils traversent des paysages qui sont parmi les plus beaux de leur pays, le massif du Bakony et la vallée de la Kuba. La fin que connaîtra Radnóti au cours de cette marche forcée fut l'objet de conjectures de quelques rares témoins. Son tout dernier poème est daté du 31 octobre 1944 de Schlent Kiralich Zabadja, je prononce sans doute très mal, une localité près de Veszprém en Hongrie. En voici les circonstances, telles que les rapporte l'introduction de Jean-Luc Moreau, que j'ai déjà cité tout à l'heure. Derrière le voisin de Radnóti se trouve un musicien de 35 ans, Miklós Lorsi, qui là-bas, dans la montagne, au-dessus de Zagubica, a souvent joué sur son violon des pièces de Bach et de Bartók, ainsi que le solo du concerto de Tchaïkovski. Impossible pour lui de renoncer à son violon. Un des SS lui tire une balle dans la nuque, le blessant gravement sans le tuer. Un nouveau commandement retentit, en rang par deux au milieu du chemin. Miklós Lorsi, qui perd abondamment son sang, essaie de se relever. Der springt noch auf. Là aussi, je prononce mal, mais ça signifie en allemand « il saute toujours ». Radnóti et son compagnon prennent chacun un bras du musicien, s'efforçant de le traîner de l'autre côté du fossé. D'un coup de pied, un soldat repousse le compagnon de Radnoti. Miklos Lorsi s'affaisse, il est à genoux. Le SS à bout portant lui tire une balle entre les deux yeux. Et c'est là qu'intervient justement, enfin qu'est écrit le dernier poème connu de Radnoti. Voici cet ultime poème dans sa traduction. Je suis tombé près de lui, comme une corde qui saute. Son corps, roide, s'est retourné, la nuque à bout portant. Et toi, comme les autres, pensais-je, il te suffit d'attendre sans bouger. La mort de notre attente est la rose vermeille. Der springt noch auf, aboyait-on là-haut, de la boue et du sang séchait sur mon oreille. Et je vous fais entendre à présent le texte dans la langue originale.
Razglednicák. Bulgáriából vastag vadágyú szógurul. A hegygerincre dobban, majd tétováz, s lehull. Torlódik ember, állat, szekér és gondolat. Az út nyerítve hőköl, sörényes ég szalad. Te állandó vagy bennem e mozgó zűrzavarban. Tudatom mélyén fény lesz örökre, mozdulatlan, s némán akár az angyal, ha pusztulást csodál, vagy korhat fának odván temetkező bogár. 9 kilométerre innen égnek a kazlak és a házak, s a réteg szélein megülve némán riadt pórok pipáznak. Itt még vizet fodroz a tóra lépő apró pásztorleány, s felhőt iszik a vízre ráhajolva a fodros birkanyáj. Az ökrök száján véres nyál csorog, az emberek mind véreset vizelnek, a század bűzös vadcsomókban áll, fölöttünk fú a förtelmes halál. Mellé zuhantam, átfordult a teste, s feszes volt már, mint húr, ha pattan. Tarkólövés. Így végzett hát te is, súgtam magamnak. Csak feküdj nyugodtan. Halált virágzik most a türelem. Der springt noch auf, hangzott fölöttem. Sárral kevert vér száradt fülemen.
Ce n'est qu'à l'occasion de la publication dans un journal en date du 1er août 1945 que l'on saura la vérité sur les derniers instants de Radnoti grâce à la note suivante. Les parents des STO victimes du massacre d'Abda, c'est près de la ville hongroise de Győr, sont priés de se faire connaître. Le 12e nom de la liste est celui de Radnoti. Le traducteur du poète rapporte encore, je le cite, une paysanne qui assista de loin au massacre racontera, il est vrai bien des années plus tard, que quelques instants auparavant, elle a pu voir l'un des condamnés allongé par terre à environ 1 mètre en contrebas du sommet du talus en train d'écrire dans une sorte de carnet. Quand le charnier d'Abda fut ouvert, on trouva sur le corps du poète, dans la poche de son imperméable, un cahier contenant ses derniers vers. Sur la première page était indiqué en hongrois, serbo-croate, allemand, français et anglais qu'il s'agissait là des poèmes de l'écrivain hongrois Miklos Radnoti, lequel demandait à qui les trouverait de les faire parvenir à Gyulia Ortutei, professeur à l'université de Budapest. Le manuscrit contenait les 10 derniers poèmes de Radnoti quatre d'entre eux ne figuraient pas dans la copie rapportée par un autre universitaire et un autre prisonnier aussi, du nom de Salai. C'étaient les trois dernières Razglednika, dont on a entendu tout à l'heure les fragments, c'est-à-dire, ça signifie en hongrois, en serbo-croate, ça signifie des cartes postales. Ce sont les derniers courts textes que Radnoti a composés après le départ de Bohr, ainsi que le poème tout à fait extraordinaire aussi, qui s'intitule Racine, que je voudrais lire à présent. La racine, terre et pluie, lui donne force, et ses rêves ont la blanchir de la neige. Elle rampe et ruse pour sortir de terre, et les cordes de ses mille bras se tordent. Le ver dans ses bras repose, à ses pieds trône le ver ronge l'univers. Mais rien ne compte pour elle de l'univers que la branche, le feuillage qui se penche. La racine qu'il admire, pour lui distille son miel, son suc au parfum de ciel. Moi-même, je suis racine. Dans la vermine, la même, s'élabore ce poème. J'étais fleur, racine suit, dans la terre, dans la nuit. Ici s'achève ma vie, tout là-haut pleure une scie. On pourrait aussi citer un autre texte qui précisément concerne, j'essaie de retrouver la page, oui ça y est, je l'ai retrouvé, un dernier texte qui concerne justement ce que Radnoti nommait « mourir de bonne mort », et on a bien compris que ça n'est pas ce qu'il a connu. Et le texte, ce fragment « Mourir de bonne mort » fait partie d'un poème qui s'intitule « Un cocotier criard ». Pour cette chair transie où mon âme est tapie, un cocotier criard ferait un bon perchoir. J'y siégerai parmi les singes érudits, leur lumineuse voix, aigre, pleuvrait sur moi. Je pousserai sans cesse la romance avec eux, trouvant plein d'allégresse qu'ils aient le nez, les fesses du même bleu. Sous un soleil énorme, chauffant la colonie, j'aurai honte pour l'homme et son ignominie. Leur raison est entière, eux comprendraient mon sort. Peut-être même aurais-je chez eux ce privilège. Mourir de bonne mort. Autre poème qui reflète des éléments biographiques que j'ai déjà en partie livrés. Et cruel aussi. Ma mère est morte, ainsi que mon père et mon frère jumeau, et la petite sœur de ma femme, et sa grande sœur et son mari. Beaucoup sont morts, sans crier gare. Et quand en rêve nous faisons bombance au soir, nous entendons sous leur tombeau grandir encore ongles sonores et poils stridents. Par ailleurs, notre vie est pure et nous n'avons pas de peine à sourire. Ma femme va et vient dans la pièce avec le frou-frou léger de sa jupe. Le regard lumineux, elle met l'ordre chez nous. Elle sait bien que les chiens des riches mordent et que celui qui meurt, il l'enterre pour toujours. Ainsi, notre vie est-elle sans peur et simple comme ce papier ou ce lait sur notre table, et cruelle aussi, comme auprès d'eux le couteau au lent regard. Thank you. avance condamné à mort. Avance condamné à mort. Le vent, les chats fuient devant toi dans les buissons, les rangs chancellent des arbres noirs et se bosselle la route qui blanchit d'effroi. Dessèche-toi, feuille d'automne. Disparais, monde sans amour. Du ciel tombe une bise froide et sur l'herbe rouillée et roide, l'ombre des oies sauvages court. Sois pur, poète, comme un sage dans la neige des hauts parages battus de vent. Sois innocent comme le tout petit enfant Jésus de nos vieilles images. Et dur aussi, comme un grand loup blessé qui saigne de partout. Un poème intitulé « 28 ans ». Violent, hideux, ô maman, j'étais l'aîné de tes jumeaux, je t'ai tué. Mon frère était-il mort? A-t-il vécu quelques instants? Je n'en ai pas la moindre idée. Dans le sang, les gémissements, on m'a hissé vers la lumière. Un jeune fauve triomphant d'avoir montré qu'il était fort. Derrière lui, deux morts. Derrière moi, deux morts. Mais devant moi, le monde, comme un brigand qui sort d'une fosse profonde, orphelin, malheureux, j'ai grandi, j'ai gagné les vastes, les venteuses cimes de la sonore et dure liberté. Ô profondeur de mon enfance, monde glacé, au lieu de ta voix qui m'appelle, j'entendais des serpents siffler sur mes yeux quand venait le soir et croyais voir au lieu du grand duvet blanc, frayeur des enfants, mon oreiller taché de sang. Du plus profond de mon enfance, ma jeunesse a pris son essor. Ton image au mur de ma chambre, je lui parlais, je lui criais. Fallait-il pour cela deux morts? 28 ans tu avais alors. Sur la photo, 25 peut-être, élégante, sérieuse, et jeune, et grave, et rêveuse. 28 ans, cela fait, c'est l'âge que je viens d'avoir. 28 ans, ô ma mère, que tu es morte, déserteuse, pleine de sang. Ô maman sanglante victime, l'âge d'homme est venu enfin, le soleil m'aveugle. Dis-moi, d'un signe de ta tête, de ta frêle main, que toi tu sais que tout est bien et que je ne vis pas en vain. Ciel écumeux. Ciel écumeux, lune qui tangue, je vis avec étonnement. La diligente mort fouille ses tâches, ceux qu'elle trouve, oh qu'ils sont blancs. L'année autour de soi parfois regarde, hurle, regarde et puis se meurt. Quel automne à nouveau derrière moi se cache, quel hiver obtus de douleur. La forêt a saigné, chaque heure dans le temps qui tourne a saigné. Le vent dessinait sur la neige de grands chiffres enténébrés. Il n'est rien que je ne comprenne. Je sens l'air sur moi peser. Un silence m'étreint, tiède et plein de murmures, comme avant d'être né. Je fais halte au pied de cet arbre qui brasse son feuillage avec fureur. Est-ce pour m'étouffer? Une branche s'abaisse. Je n'éprouve pourtant ni faiblesse ni peur, mais je suis là. Je fais silence. Le feuillage fourrage mes cheveux sans rien dire effrayé. Oublié? Mais jamais encore. Jamais je n'ai rien oublié. L'écume a submergé la lune. La colère de vers sombre barre la nuit, je me roule une cigarette, lentement, longuement, je vis. Bien longtemps je t'ai scellé. Bien longtemps je t'ai scellé, comme l'arbre en son feuillage, le fruit lentement mûri. Et, lucide fleur de glace, sur le miroir de la vitre, dans mon esprit tu fleuris. Et je sais ce que veut dire ta main dans ta chevelure. Je porte en moi de tes pas cette infime fléchissure et la courbe de tes côtes, s'il advient que je l'admire, comme un qui s'y reposa, pur miracle qui respire. Dans mes rêves, bien souvent, mes deux bras deviennent cent, et comme un dieu dans un rêve, dans mes cent bras, je te prends. Et un dernier poème, très court, intitulé « Nuit ». Le cœur sommeille, et dans le cœur l'angoisse est ensommeillée. La mouche sommeille au mur près de la toile d'araignée. Dans la maison tout se tait jusqu'au grignotement de la souris qui veille. Le jardin, les branches, tout dort. Le pivert dans l'arbre sommeille. Dans la ruche l'abeille dort. La cétoine dort dans la rose. Dans les éplis du blé trop mûr qui s'égrène l'été repose. La flamme dort dans la lune. Ô médaille sans chaleur, l'automne dans la nuit se lève et se glisse comme un voleur. Alors je termine en disant qu'on a pu entendre, indépendamment des textes dits en hongrois, à propos des cartes postales dont j'ai parlé, je ne redis pas le titre en hongrois, on a pu entendre deux préludes du compositeur polonais Karol Szymanowski, qui est un contemporain de Radnoti, puisqu'il est mort en 1937, et ces deux préludes étaient interprétés par Christian Zimmermann. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.